Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue, très heureux de vous retrouver à l'écoute de Mélomanie pour un nouveau numéro de votre magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. Les temps sont durs pour tout le monde en ce début d'année 2021, toujours placé sous le signe de l'incertitude. Nous ne pourrons malheureusement pas reprendre le chemin des salles de concert en janvier. On pouvait certes s'y attendre, mais le coup est tout de même rude pour beaucoup d'institutions musicales, obligées de reporter ou d'annuler carrément les concerts ou les opéras programmés ce mois-ci. C'est le cas, par exemple, pour le concert de l'Orchestre National du Capitole prévu ce vendredi 15 janvier, celui que nous vous avions présenté la semaine dernière, et c'est le cas aussi d'Eugène Onegin, l'opéra de Tchaïkovski, qui devait être donné au Théâtre du Capitole du 26 janvier au 7 février. Il faut vraiment beaucoup chercher pour trouver quelque chose qui ressemble à une bonne nouvelle ces jours-ci. Eh bien, nous en avons tout de même une à partager avec vous, même si elle concerne une échéance encore lointaine. La 16e édition du Festival de Rocamadour est annoncée du 15 au 26 août prochain et sa programmation vient tout juste d'être dévoilée au public aujourd'hui même. Nous avons la chance d'en avoir la primeur à Mélomanie en recevant Aimeran Rollin, le directeur artistique du festival. C'est avec lui que je vous propose de découvrir les musiciens invités à Rocamadour en août prochain à l'occasion d'une rubrique agenda très estivale faite pour réchauffer les cœurs et nous remonter le moral.
Mélomanie, l'agenda.
Bienvenue à vous aussi, Aimeran Rollin. Bonjour, merci d'être venu du Lot pour participer à cette émission et présenter à nos auditeurs la programmation de ce 16e festival qui fête mine de rien ses 15 ans d'existence en 2021. Comme je l'ai dit la semaine dernière, il va y encore y avoir du très beau monde et de grands noms de la scène classique actuelle du 15 au 26 août à Rocamadour. Nous allons regarder ça en détail avec vous dans quelques minutes, mais avant il faut qu'on revienne sur l'édition 2020 qui s'est déroulée dans un contexte bien particulier. Alors faites-nous un petit bilan du festival 2020. Vous avez fait un pari qui s'est révélé gagnant puisque et les artistes et le public vous ont suivi.
Bonjour Éric Dupri, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. C'est vrai que le maintien de notre 15e édition l'été dernier a été un pari réalisé avec les artistes et avec les services de l'État. Le public est venu, les mécènes ont soutenu, les collectivités nous ont accompagnés. Résultat, nous avons eu la chance d'avoir une très très belle 15e édition. On peut dire que le public a été enchanté, les artistes ont doublé les représentations, raccourci un petit peu les programmes de concert pour arriver à jouer deux fois dans une soirée. C'est vrai que c'était une expérience rude aussi pour eux, pour toute l'équipe, d'accueillir deux fois du public, de jouer deux fois le même programme avec très peu de pauses entre les deux, mais on a vécu des moments qui resteront gravés dans nos mémoires parce que tous les artistes se sont donnés à fond, on va dire. Et puis, ce qui était aussi très beau, c'est que cinq des artistes, des ensembles ou des artistes qu'on recevait au festival donnaient leur premier concert depuis le mois de mars, depuis le premier confinement. Et donc, il y avait le retour à la scène, la nouvelle rencontre avec le public. Et quand on pense que des gens comme Hervé Niquet, comme l'ensemble Mathéus ou les musiciens du Louvre n'avaient pas donné un concert, ce sont des choses qui leur étaient jamais arrivées dans toute leur vie d'artiste. Donc, on a vécu quelque chose de très particulier. Le public l'a bien ressenti. Il y avait des émotions particulières à se dire ils sont en train de rejouer pour la première fois depuis 6 mois.
Alors la fréquentation, la billetterie, qu'est-ce que ça donnait? Parce que bon, vous l'avez dit, il y avait deux concerts chaque soir, mais des concerts avec des demi-jauges qui se sont révélés être des deux tiers ou trois quarts de jauge finalement. Donc au lieu de 400 personnes, vous aviez au maximum 300. Mais qu'est-ce que ça a donné en termes de fréquentation et de billetterie par rapport à l'année précédente?
Alors, le festival a continué sa progression. On fait chaque année depuis 2013 plus 16% de fréquentation chaque année. Et là, c'est exactement la même chose aussi. On était parti, hein, quand on a construit ce projet du festival 2020, donc bien avant toute cette épidémie, sur les mêmes statistiques que chaque année. On était encore en progression, donc avec un objectif de plus 16%, ce que nous avons réalisé. Le public est venu. C'est vrai qu'on avait cette inquiétude, hein, de se dire est-ce que les gens vont oser sortir, etc. Et puis, en fait, on a fait complet quasiment sur toutes les soirées. Hein. Donc quand je dis complet, c'est-à-dire qu'on avait donc 300 places par représentation au lieu de 430 habituellement. Et puis les doubles représentations ont permis de, on va dire, on a atteint le 100%, c'est-à-dire qu'on a fait 430 places sur chaque soirée.
Donc artistes et public ravis finalement par cette formule du double concert qui ouvre des perspectives. Alors pour la prochaine édition du 15 au 26 août 2021, qu'est-ce que vous avez prévu? Est-ce qu'on va avoir une programmation normal entre guillemets avec un seul concert à 21h comme c'était le cas jusqu'en 2019, ou est-ce que vous avez choisi de reconduire la stratégie des deux concerts chaque soir à 19h30 et à 21h30?
Bah, j'ai envie de dire un petit peu les deux. C'est-à-dire qu'on part du principe que là, on garde notre calendrier habituel. On ne veut pas se laisser abattre par cette épidémie. Et donc, on sort chaque année la programmation en janvier, on la sort en janvier. On a construit une programmation avec un concert par soirée à 21h ou 21h30 ou 23h. Enfin, ça dépend des soirs, mais l'horaire habituel, c'est 21h. Cependant, évidemment, on a eu un plan sanitaire qui a très bien fonctionné et donc on a essayé avec mes collègues Laetitia Corcel et Enguerrand Deuys, qui sont mes conseillers artistiques depuis 2013, de construire une programmation qui soit adaptée, à savoir qu'au niveau des effectifs, on n'est pas des trop grands effectifs qu'on soit obligé de réduire. Donc je crois que le maximum que l'on reçoit, c'est 27 sur le plateau cette année. D'habitude, on est à 50 ou voire plus. Et ça, on a vu l'année dernière qu'on ne pouvait pas mettre 50 personnes. Ça, c'était pas envisageable. Donc 27, ça, c'est jouable. Et puis au niveau des programmes, on a prévu des programmes avec une œuvre phare qui dure moins d'une heure et avec un complément de programme qui puisse être plus ou moins long. Donc, on va dire que les programmes habituellement vont durer une heure et demie si on est en mode non-épidémie, en mode normal. Et puis, ils ont la possibilité d'être raccourcis à une heure, voilà, de manière assez simple et de doubler les soirées. Donc ça a déjà été vu avec les artistes parce qu'on veut absolument, tant qu'il y a de l'espoir, on essaiera de maintenir cette édition 2021, quoi qu'il arrive.
Donc, il a été négocié au préalable avec les artistes de pouvoir ajuster les programmes en fonction de ce que sera la situation sanitaire en août et de ce qui sera permis de faire. Concert normal avec une jauge complète ou des concerts avec des jauges à demi ou aux deux tiers. Et donc ça, c'est dans les contrats, je suppose, qui vous permet d'être tranquillisé sur ce point.
Bah, ça permet pour eux d'être tranquillisés parce qu'en fait, ils ont eux aussi besoin de, les artistes, hein,
d'avoir quelques certitudes.
Bah, de se projeter. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de festivals qui, l'été dernier, n'ont pas eu lieu ou ont adapté leur programmation. Il y a eu énormément de concerts annulés. Nous, on avait réussi à maintenir 100% de la programmation, mais c'est sûr que c'est plus rassurant pour nous aussi de se dire qu'on évoque dès maintenant les différentes perspectives au lieu de se donner rendez-vous au mois de mai et de se dire au mois de mai, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous êtes d'accord? Parce que ce qui a fait que ça a fonctionné en 2020, c'est que l'intégralité des artistes ont dit oui. Sur l'adaptation du programme, sur le fait de doubler les soirées, sur le fait de raccourcir les programmes, il y en a un qui n'aurait pas voulu, ça aurait quand même posé des difficultés. On n'était plus vraiment dans une collaboration où on dit « bon, j'achète un concert, j'accueille du public ». On était vraiment en se disant « bah, la culture, c'est moi, j'ai besoin des artistes, eux, ils ont besoin de moi pour pouvoir jouer ». Et donc, on était main dans la main et je pense que vraiment, cette relation qu'on a réussi à tisser cet été va se continuer et on va le voir dans la programmation parce qu'il y a des artistes qui nous font confiance depuis des années et qui aiment revenir au Festival de Rock Amadour.
C'est ce que je voulais dire. Je pense qu'il y a une grande confiance mutuelle entre les artistes, les musiciens et l'équipe de programmation, dont vous-même. On en vient justement à cette programmation proprement dite de l'édition 2021, qui commence donc le 15 août, comme l'an passé, le jour de l'Assomption, où l'on célèbre entre autres la Vierge Noire de Rock Amadour. Quelle formation, quels musiciens vont avoir le redoutable honneur d'ouvrir ce 16e festival à la Basilique Saint-Sauveur cette année?
Il s'agit de l'ensemble en résidence, le grand ensemble en résidence, le concert spirituel dirigé par Hervé Niquet, donc qui est venu l'année dernière, qui vient cette année et qui viendra l'année prochaine puisqu'ils sont en résidence pour 3 années. Le programme qui est donné est celui qui était prévu dans le projet déposé par le concert spirituel, à savoir God Save the Queen, qui comprend les Coronation Anthems de Handel et le Te Deum de Dettingen. Donc une soirée baroque, une soirée baroque anglaise avec orchestre et chœur. Et donc une soirée, j'allais terminer par ça,
ah oui,
une soirée Handel, voilà, grand compositeur avec le faste qu'on lui connaît, voilà.
Alors, un petit mot sur cette résidence avec donc le concert spirituel qui a été lancé cette année. Hein,
en 2020.
Mais qui n'a pas pu, je suppose, se dérouler selon les termes qui étaient prévus jusqu'alors. Puisque quand on dit résidence, ça veut dire que ponctuellement, ils viennent travailler sur place à Rock Amadour. Et là, ça n'a pas été possible, malheureusement, jusqu'alors.
Exactement. Alors, on essaie de maintenir le grand événement qui est le rendez-vous pendant l'été. L'idée de cette résidence était quand même aussi d'apporter sur un territoire rural très excentré des grandes villes de régions comme Limoges, Bordeaux ou Toulouse, et d'apporter pour les habitants du Lot un ensemble professionnel de très grande qualité qui viennent faire un travail de territoire. Voilà, le 2020, ça a commencé, il y a eu un confinement en début d'année, un deuxième à l'automne. En ce moment, les salles de spectacle n'ont pas le droit d'ouvrir, donc c'est sûr qu'on s'adapte au fur et à mesure et on verra en fonction des événements.
Donc, 2 œuvres au programme de cette soirée d'ouverture, God Save the Queen, donc les Coronation Anthems de Handel, donc c'est les hymnes du couronnement, pour le traduire en français, donc le Te Deum de Dettingen, qui célèbre la victoire anglaise à la bataille de Dettingen en 1743. Voilà pour la petite histoire, et voici un extrait des Coronation Anthems, les hymnes du couronnement de Handel. Thank you. Extrait des Coronation Anthems, les hymnes du couronnement de Georg Friedrich Händel, que va donc interpréter le concert spirituel dirigé par son fondateur Hervé Niquet en ouverture du Festival de Rock Amadour 2021 le 15 août à 21h à la Basilique Saint-Sauveur. Le concert suivant n'est pas donné à Rock Amadour, c'est un premier événement hors les murs. Il va avoir lieu le 16 août, toujours à 21h, en l'abbatiale de Souillac, et c'est un concert de voix corse. Alors ça, je crois que c'est très nouveau pendant le Festival de Rock Amadour.
Oui, c'est nouveau aussi parce qu'on n'a jamais donné de concert à l'abbatiale de Souillac dans le cadre du festival, qui est un très très bel endroit de notre territoire. C'est une ancienne abbatiale bénédictine, célèbre pour son tympan notamment, qui est au-dessus de l'entrée de cette abbatiale. Pourquoi les voix corses ? C'est aussi parce que ça faisait écho à ce que l'on voulait transmettre au public. Notre thématique de 2021, c'est « Authentiques héritages ». Et notre idée, c'était aussi, avec tout ce qu'on a vécu cette année, de pouvoir reparler et de pouvoir vivre en musique ce qui fait notre ADN, ce qui fait notre culture, ou aller à la rencontre des autres cultures. Et c'est vrai que voilà, quand on parle voix corse, le chant corse, c'est un chant qui est issu des tripes, qui est issu de l'âme d'un peuple. Et donc, c'était un petit peu cette idée-là. On verra qu'au fil de la programmation, on va aller à la rencontre de peuples, à la rencontre de traditions. Et on essaie un petit peu de revenir aux sources aussi de ces langages et de ces peuples. Donc, c'est la première année, un magnifique ensemble qui s'appelle Barbara Fortuna. Et c'est aussi une ouverture finalement, parce que le festival de Rock Amadour, la musique sacrée, c'est un festival de musique sacrée et de musique classique, mais la musique sacrée, ça n'est pas que la musique sacrée occidentale, ce n'est pas que la musique sacrée chrétienne, c'est aussi plus ouvert que ça, et dans la musique sacrée, il y a aussi de la musique traditionnelle.
Alors, voix corse, quel programme ils vont interpréter ? C'est un programme aussi d'œuvres corse ou c'est beaucoup plus ouvert que ça ?
Alors, le nom du programme, ça s'appelle Voix Corse. C'est pas très original, mais globalement, c'est un programme de musique sacrée corse, à la fois populaire, avec le Salve Regina que tout le monde a déjà entendu et au moins une fois, et puis aussi des compositions du groupe hein, qui sont inspirées, on va dire, de cette tradition corse. Parce qu'il y a des instruments, ils chantent pas que a cappella.
Un nouvel extrait dans cette émission pour découvrir les voix des chanteurs de Barbara Fortuna, accompagné ici par les musiciens de l'ensemble L'Arpeggiata, dont on va reparler plus tard d'ailleurs, Maria, une pièce extraite de l'album Via Crucis. Per idula mamma d'ogni storia. Maria, magnifique extrait de l'album non moins magnifique Via Crucis, enregistré en 2010 par l'ensemble L'Arpeggiata de Christina Plouard, avec les chanteurs du groupe Barbara Fortuna, groupe de voix corse qui sera en concert à l'abbatiale de Souillac le 16 août à 21h. Dès le lendemain, on revient à Rocamadour et à la basilique Saint-Sauveur, toujours à 21h, pour entendre un trio à cordes formé de trois grands solistes regroupés pour une interprétation d'une transcription des variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach, qui sont ces trois musiciens branlins. Alors là, c'est du très très prestigieux aussi. Hein.
Il s'agit donc de Renaud Capuçon, de Gérard Cosset à l'alto et de Victor-Julien Laferrière au violoncelle.
Voilà, donc trois générations de musiciens. Donc le très jeune Victor-Julien Laferrière, bon, Renaud Capuçon qui aujourd'hui est un musicien en pleine maturité, puis Gérard Cosset qui est toulousain, rappelons-le, hein, ça sera un des toulousains de l'étape. Là, il y en a un autre, on va en parler dans quelques instants. Trio qui s'est constitué assez récemment, je crois, en tout cas pour jouer ses variations Goldberg.
Oui, ça fait quelques temps hein, qu'il les donne et c'est vrai que Renaud Capuçon, je crois, est assez tombé amoureux du festival et de cette cité de Rocamadour. Donc voilà, quand on s'est appelé au mois de septembre pour discuter projet, il m'a proposé ce programme. Je ne connaissais pas du tout cette transcription pour trio à cordes hein, qui est d'un russe.
Violoniste et chef russe, Dmitri Sitkovetsky.
Et il m'a dit, Emran, allez écouter ça. Bon, vous verrez l'enregistrement où il joue lui-même et avec Gérard Cosset jeune hein, en 1985 sur YouTube. On peut le trouver. Il me dit, bon, on n'interprète pas tout à fait comme ça parce qu'ils le font très romantique en 85. Et en fait, c'est sublimissime. C'est-à-dire qu'on redécouvre les variations Goldberg qui sont d'habitude jouées au piano, au clavecin. Là, on les entend sonner différemment. J'ai été tout de suite conquis et je l'ai rappelé quelques jours après en lui disant « ça marche pour moi ».
Banco et à la Basilique qu'il a découvert, puisque c'est lui qui a donné le concert de clôture en 2020. Mmh. Et il a découvert à cette occasion l'acoustique de la Basilique Saint-Sauveur. Et apparemment, ça lui a beaucoup, beaucoup plu.
Ah ben, il nous en a beaucoup, beaucoup parlé. Et puis, voilà, il nous a dit que l'acoustique de la Basilique de Rocamadour, c'est digne des plus grandes salles de concert du monde. Pour dire, Edgar Moreau, en 2015, nous avait dit, donc le violoncelliste, nous avait dit aussi que ça faisait partie des trois plus belles acoustiques qu'il avait jouées dans le monde. Bon,
William Cressy aussi a fait beaucoup de compliments
beaucoup
cette
de compliments,
année
enfin,
sur l'acoustique
voilà.
de la Basilique.
Y a, en fait, ils parlent de l'acoustique, les musiciens, parce que c'est ce qui les interpelle en premier. Je crois qu'il n'y a pas que l'acoustique. Il y a tout ce que dégage ce lieu en termes de spiritualité, en termes de... On a un public qui n'est pas forcément différent des autres festivals de musique classique, mais dans ce lieu, il se passe quelque chose. Écouter un concert dans cette église à flanc de falaise, semi-troglodyte, avec la falaise, avec le calcaire, enfin c'est
avec
ce
cette
canyon,
configuration très particulière aussi de, ouais. de la basilique. Hein,
configuration avec les deux piliers ou en plein centre, donc ce qui fait qu'on fait une scène centrale où le
public,
entoure,
en fait, entoure
les artistes hein. ou les musiciens entourent le public.
Oui, ça peut être l'inverse.
Ça dépend. Hein. Voilà, il se passe quelque chose et je pense que l'acoustique y est, elle est magnifique. Il y a aussi autre chose qui touche les artistes.
Troisième année consécutive, en tout cas, à Rocamadour pour Renaud Capuçon, qui a l'air de s'y plaire et qui m'avait confié lors de l'interview que j'ai réalisée avec lui lors du dernier festival qu'il aimait être fidèle à des lieux et à des événements. Ben voilà, il le prouve. Il revient donc encore en 2021. Nous allons écouter maintenant le trio formé par Renaud Capuçon, Gérard Cosset et Victor-Julien Laferrière dans une interprétation d'un extrait des variations Goldberg de Bach dans la transcription de Dmitri Sitkovetsky. Le trio formé par Renaud Capuçon, Gérard Cosset et Victor-Julien Laferrière interprétait cet extrait des Variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach dans la transcription de Dmitri Sitkovetsky. C'est donc l'œuvre qu'ils vont donner le 17 août à 21h à la Basilique Saint-Sauveur et au même endroit le 18 août. Nous allons retrouver une formation qui est déjà venue à Rocamadour. C'était en 2019. Cette formation, c'est La Tempête, la compagnie fondée et dirigée par Simon-Pierre Bestion, qui est en résidence, si je ne me trompe, pas très loin de Rocamadour, à Brive.
Exactement.
Je voudrais que vous nous parliez de cet ensemble, de cette compagnie de Simon-Pierre Bestion, parce que pour moi, c'est un ovni.
Alors, je suis entièrement d'accord. Il nous bouscule à chaque fois dans les codes du concert classique. Chaque concert pour Simon-Pierre, je pense, est vécu comme une expérience. Elle est vécue aussi vraiment comme dans un rapport sensoriel.
Il le vit comme ça. Expérience de sensation, expérience sensorielle, c'est tout à fait ça.
Oui, et en fait, le public est à chaque fois médusé. On peut se souvenir de ce qu'on a vécu à Rocamadour, qui était les Vêpres de Rachmaninoff.
Et l'arme de résurrection.
Et l'arme de résurrection, mais tout le monde était dans des univers très différents. Musique 19e, musique baroque, allemande. Vraiment, c'est assez incroyable.
Je m'en souviens encore, personnellement, j'avais vu les deux concerts et j'en étais ressorti, je vous l'avais dit d'ailleurs, j'avais trouvé ça extraordinaire. On reste un peu en apesanteur pendant quelques temps, même quand on sort.
C'est ça. Et donc, voilà, pour nous, c'est vrai que Brive, c'est pas la même région, pas le même département, et pourtant, c'est très voisin. On est à 40-45 minutes en voiture. Bon, tisser des ponts et des liens avec cette compagnie, voilà, ça nous paraît aussi naturel. Il y a une très grande qualité, c'est-à-dire qu'il y a de l'expérience, il y a de l'innovation, mais ça reste aussi quelque chose de très, très haut niveau. Donc, on a un programme là, qu'ils ont créé pour la Cité de la Voix à Vézelay, que l'on va accueillir. C'est un programme qui s'appelle Jérusalem.
Jérusalem, alors pourquoi Jérusalem? Parce qu'en fait, on va entendre des musiques qui appartiennent ou à des traditions, en tout cas à des civilisations qui se percutent, pourrait-on dire, dans ce lieu bien particulier qu'est Jérusalem, qui est un carrefour de culture, de religion et de civilisation.
Exactement, la civilisation latine, les Byzantins, les Arabes, les Hébreux, il y a des psaumes juifs. Ce programme, il mêle tout cela. Je ne sais pas, il nous en parlera l'été prochain, mais c'est comme si finalement, en musique et dans un programme de concert, on peut se permettre de faire dialoguer, de créer des liens entre toutes ces civilisations qui finalement ont du mal à s'entendre et se tapent dessus à longueur de journée. En fait.
Effectivement, mais je pense en plus que ça prend tout son sens en la basilique Saint-Sauveur de Rocamadour, parce que Rocamadour est un lieu de pèlerinage et qu'il y a des gens qui viennent du monde entier, de tous les continents. Vraiment, j'ai hâte de voir ça parce qu'à chaque fois, c'est scénarisé, c'est adapté au lieu où il fait ses programmes, c'est jamais tout à fait le même programme.
Exactement.
En fonction du lieu, ça change, la mise en espace est différente. Donc on sait que ça va être une soirée unique et sans doute inoubliable. Voici un florilège d'extraits de ce programme Jérusalem, en fondu enchaîné, interprété par les chanteurs et les musiciens de la compagnie La Tempête.
Yeah.
Jérusalem, un florilège d'extraits du programme que va donner La Tempête, la compagnie de Simon-Pierre Bestion à la Basilique Saint-Sauveur le 18 août à 21h. Et les 19 et 20 août, vous allez renouveler une expérience tentée en 2020. C'était une des expériences de 2020 avec un concert sous les étoiles donné par le groupe Climax à 23h. Alors le 19, ce sera sur le site du Dolmen de Mage et le 20 au château de Haute-Serre. Expliquez-nous un peu là aussi, parce que c'est un peu aussi une expérience sensorielle. Hein.
Oui. Alors, on a modifié les dates très récemment, enfin les lieux. C'est le 19 au château Haute-Serre à Siorac, donc au sud de Cahors, et le 20 au Dolmen de Magès.
C'est inversé, d'accord.
Voilà, c'est inversé. Et c'était donc le Dolmen de Magès, le lieu où on a fait les deux soirées. Qu'est-ce qui change aussi? Le fait que Climax ne vient pas à 4 mais à 6 chanteurs, toujours dans le même style musical. C'était une expérience, c'était une idée un peu folle. Je me suis dit, on est dans le Triangle Noir, l'endroit de France où on voit le mieux les étoiles. En plein mois d'août, les étoiles filantes, c'est incroyable parce qu'il y a très peu de pollution lumineuse. L'avantage d'être loin de tout, c'est qu'on est loin des pollutions lumineuses des grandes villes aussi.
Et c'est rare en France, de plus en plus.
Et c'est rare de plus en plus. Et c'est vrai que je m'étais dit, on va faire un truc un peu dingue. Il faut le faire bien tard le soir, à 23h, pour que ça soit encore plus symbolique, en fait, l'expérience. Sur des transats allongés, sur le causse du Quercy. Au Dolmen de Magès, ça sera ça. Au château de Serre, ça sera au milieu des vignes, puisque le château de Serre est une appellation, est un des châteaux de l'appellation Vin de Cahors. Et voilà, et puis on écoute pendant une heure, on écoute de la musique. En comptant les étoiles filantes.
Alors, donc ils seront 6, ils étaient 4, ils seront 6. Donc on regarde, on a la face aux étoiles. Il ne faut pas s'endormir quand même. Et il y a de la musique qui ne prête pas à l'endormissement. Parce que qu'est-ce qu'ils interprètent? On ne l'a pas dit, il faut quand même qu'on l'explique. C'est très particulier aussi le répertoire de Climax.
Oui, c'est un répertoire donc, issu du barbershop. C'est-à-dire, c'est de la musique américaine. En fait, des arrangements d'œuvres qu'on connaît. D'ailleurs, je pense que dans leur programme, même l'été dernier ou l'année prochaine, on connaît quasiment tout. Hein. Ils changent le programme. Hein. Ce n'est pas le même programme. Pour ceux qui sont déjà venus, ils peuvent revenir pour venir écouter d'autres choses. Mais donc, ce sont des arrangements parce qu'ils chantent a cappella avec des harmonies, c'est-à-dire la mélodie passe de la voix de basse à la voix de soprane, à la voix de ténor, et à chaque fois, les autres voix font des harmonies qui mêlent un petit peu de jazz, un petit peu de blues, un petit peu de pop.
Un peu negro spirituel,
voilà,
un peu
tout
ça. C'est très américain, enfin, ça sonne très américain en tout
c'est
cas.
C'est ça, oui. Quelque chose qu'on trouve peu en France, en fait. Hein.
Et c'est très, très agréable. Enfin, moi, j'invite les gens à faire l'expérience à la fois sonore et visuelle. Le lendemain, le 21 août, nous allons rester en plein air avec ce qui est désormais un rendez-vous traditionnel du festival. Là encore, hors les murs, le concert dans les jardins du magnifique château de la Traîne à La Cave. C'est sur les bords de la Dordogne, pas très loin de Rocamadour. Et là, vous avez invité un duo qui peut paraître inattendu sur le papier puisqu'il réunit la guitare et l'accordéon avec deux musiciens extraordinaires. Dites-nous les noms. Il y en a un qu'on connaît bien à Toulouse.
Alors Thibaut Garcia, on commence par le Toulousain, et puis Félicien Bru. C'est très intéressant parce que ce sont la guitare et l'accordéon, deux instruments populaires, et toujours dans cette recherche des authentiques héritages, mais ils jouent de la guitare classique et de l'accordéon classique. Et en même temps, ils vont nous proposer un programme qui mêle le côté hispanisant, le côté latino-américain de l'Amérique du Sud, avec des transcriptions. C'est une nouvelle formation, puisqu'ils viennent de créer ce duo. Là, fin 2020, c'est le début. Voilà, on est très heureux de les recevoir sur un programme qui va un peu nous chambouler, qui, je l'espère, va aussi permettre à certaines personnes de changer leur image de l'accordéon, qui n'est pas qu'un instrument qui se joue dans les balles musettes, sans dénigrer les balles. C'est pas péjoratif ou dénigrer. Mais en fait, c'est un instrument très complet. Déjà, quand on l'entend dans la petite messe solennelle de Rossini, dans la version accordéon, on se dit « Tiens, mais c'est très étonnant. » Et puis, c'est pareil, la guitare, c'est un instrument qui a plusieurs cordes à son arc, hein, entre la guitare folk, la guitare jazz, la guitare classique. Il y a tout un monde. Voilà, donc deux très, très grands musiciens.
Réunis donc pour ce duo et cette soirée dans ce jardin là du château de la Traîne. Et puis avec Thibaut Garcia, dites-moi, vous avez eu du nez parce que au moment où vous avez fait le programme, vous ne le saviez pas.
Non.
Mais Thibaut, qui est venu souvent dans cette émission, j'appelle Thibaut parce que maintenant on se connaît depuis déjà quelques années, est parmi les trois finalistes de la catégorie soliste instrumental de l'année aux prochaines victoires de la musique classique. Il aura face à lui, si on peut dire, Katia Bougnatichvili et Alexandre Tarot, deux pianistes, Alexandre Tarot, dont on va reparler dans quelques instants. Et c'est pour ça que je dis que vous avez eu du nez. Pour vous faire une idée de ce que donne le mariage de l'accordéon et de la guitare classique, voici un petit aperçu avec cette interprétation d'Alborada del Gracioso, extrait des miroirs de Maurice Ravel par Félicien Brut et Thibaut Garcia. Thank you. Alborada del Gracioso, extrait des Miroirs de Maurice Ravel, interprété par l'accordéon de Félicien Brut et la guitare de Thibaut Garcia. Là, on était un peu en Espagne et le 21 août à 19h30, on sera au Château de la Traîne pour écouter ces deux excellents musiciens. Le 22 août à 21h, retour à Rocamadour et à la Basilique Saint-Sauveur pour un concert hommage à Francis Poulenc, dont la mémoire, on le sait, reste très attachée à ce lieu. Et on va y retrouver deux formations, elles aussi très attachées à Rocamadour, puisqu'il s'agit des ensembles Dulci Jubilo et La Sportelle, accompagnés par le très talentueux organiste Thomas Hospital. Il faut que vous nous rappeliez pourquoi ces deux formations sont attachées à Rocamadour. La première, l'ensemble Dulci Jubilo, l'est surtout à travers son fondateur, parce que lui, il est né à Rocamadour.
Exactement, Christopher Gibert. Et puis d'ailleurs, ils ont donné leur premier concert en 2013 à Rocamadour. Et puis ils sont venus plusieurs fois dans le festival en 2014, en 2015, l'année dernière aussi. Et l'idée de cette soirée, c'est que le 22 août 1936, c'est la date où Francis Poulenc donc, s'est converti à Rocamadour, a été bouleversé par par le lieu et par la Vierge Noire. Et donc le soir même, il a écrit les litanies à la Vierge Noire de Rocamadour. Œuvre qui sera au programme, puisque donc le 22 août 2021, ça fera donc 85 ans que cette œuvre a été écrite. Et pour fêter cette occasion, c'est dit programme en hommage à Francis Poulenc. On réunit les deux formations attachées au lieu, puisque La Sportelle, c'est un ensemble qui est en résidence permanente à Rocamadour, qui est ensemble associé au festival. Cet ensemble est dirigé par Laetitia Corcel. Et puis c'est un programme avec du Francis Poulenc, évidemment, donc les litanies, il y aura également le Salve Regina. Et puis les autres œuvres seront des œuvres de compositeurs qui ont aussi été marquées par le lieu. Des œuvres de Christopher Gibert, à la fois son Salve Regina qui a été composé pour l'inauguration du Grand Orgue de Rocamadour et créé en 2013 à ce moment-là. Son Stabat Mater pour chœur et orgue dans cette version-là, qui est une commande du Festival 2015. Il y aura également des œuvres de
Thierry Esquèche.
Oui, Bertrand Richoux. Et puis une création mondiale de Thierry Esquèche. Donc œuvre qu'il est censé, on va dire, nous livrer là dans les prochaines semaines. Et donc qui sera une œuvre en hommage à Rocamadour, en hommage à la Vierge Noire. Voilà, donc c'est un programme maison, des ensembles maison. Mais en tout cas, c'est un programme qui va nous parler de notre héritage de chez nous.
En tout cas, ça fait beaucoup de raisons de venir écouter ces musiques. Ça sera une soirée en deux parties, une partie avec Dulci Jubilo, une partie avec La Sportelle, ou c'est mélangé?
Non, le programme est mélangé. Et puis, il y a des œuvres où c'est que Dulci, des œuvres où c'est que La Sportelle, et le Stabat Mater sera donné par les deux ensembles.
Voilà, donc au programme de cette soirée, il y a entre autres le très beau Salve Regina composé par Christopher Gibert, qui a fait l'objet d'un CD magnifique. On l'écoute interprété par l'ensemble Dulci Jubilo, la soprano Clémence Garcia et Thomas Hospital à l'orgue. Salve Regina de Christopher Gibert, interprété par l'ensemble Dulci Jubilo, la soprano Clémence Garcia et l'organiste Thomas Hospital, des musiciens avec lesquels vous avez rendez-vous le 22 août à 21h à la Basilique Saint-Sauveur pour un concert où est aussi programmé l'ensemble Asportel. Une très belle soirée en perspective. Le 23 août, c'est encore la musique sacrée qui va être à l'honneur à la Basilique Saint-Sauveur avec le concert du Ténébré Choir, dirigé par Nigel Short, une soirée que vous avez intitulée Hymne à la beauté céleste, qui montre aussi la dimension internationale du festival, puisque vous y recevez à cette occasion sans doute une des formations vocales britanniques les plus prestigieuses du moment. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour la présenter ?
On peut dire que ce que dit le Times, c'est-à-dire que cet ensemble est phénoménal. C'est incroyable. Vraiment, les chœurs anglais ont cette particularité et vraiment, on est très heureux. D'autant plus que c'est un programme qui va mêler des réponses de ténèbres de Victoria, du Bach avec des motets, Jesu meine Freude ou Comme Jesu comme, avec le Miserere d'Allegri et puis avec aussi de la musique plutôt contemporaine avec le Miserere de Macmillan. Les concerts de Ténébré, on verra si on le fait à Rocamadour, mais c'est souvent éclairé à la bougie et spatialisé.
Voilà, donc là aussi, c'est un petit peu scénarisé. Donc,
c'est complètement
comme
scénarisé.
Comme peut le faire la tempête, mais bon, toute proportion gardée, bien sûr. Mmh. Là, il s'agit de musique sacrée, abordée de façon un peu plus classique tout de
oui,
même.
Tout à fait.
Vous les pistiez depuis quelques années, là, cet ensemble ?
C'est eux qui me pistaient.
Ah.
Non, je rigole. Je dis ça parce que...
Encore mieux.
C'est juste... Non, mais quand je dis ça, c'est parce que dans les suggestions qu'on a quand on sur YouTube ou ce genre de choses, en fait, on regarde une vidéo et puis on voit sur le côté des suggestions. Et en fait, tout le temps, en permanence, j'avais des suggestions de leurs vidéos qui sont sublimissimes. Notamment leur Miserere d'Allegri, la vidéo a 10 millions de vues, enfin. Et donc, voilà, j'aime beaucoup en travaillant à certains moments écouter, et puis des playlists, et puis en fait, quand j'ai écouté, moi, je peux écouter ce qu'ils font pendant des heures, hein, c'est magnifique.
Alors, autant le faire écouter au public de Rocamadour. Voici le Ténébré Choir de Nigel Short dans ses œuvres, avec cette interprétation de Versa est in luctum, une pièce d'Alonso Lobo, un compositeur espagnol de la Renaissance. Versa est in luctum, pièce d'Alonso Lobo interprétée par le Ténébré Choir sous la direction de Nigel Short qui sera donc en concert à la Basilique Saint-Sauveur le 23 août à 21h avec un programme de musique sacrée intitulé Hymne à la beauté céleste. Le 24 août, nous allons retrouver le plein air et l'ambiance nocturne pour un concert dans la vallée de l'Alzou. Voilà, on y retourne dans la prairie au pied de la cité de Rocamadour. Vous aviez déjà tenté l'expérience en 2019, vous aviez rassemblé tout de même 1700 spectateurs pour le concert de Renaud Capuçon avec les Lausanne Soloistes. Là, c'est le concert de la loge de Julien Chauvin que vous avez invité, une formation peut-être pas encore très connue du grand public, mais déjà très réputée sur la scène musicale actuelle.
Ça, on peut le dire. Hein. Ils ont 5 ans d'existence. Je crois qu'ils ont été créés en 2015.
Oui, je le confirme.
Et ils avaient un peu défrayé la chronique parce que leur premier nom, c'est le concert de la loge olympique, mais on leur a interdit d'utiliser
olympique.
Le mot olympique. Donc, c'est concert de la loge et puis olympique est barré en dessous. Voilà, ça avait défrayé un petit peu la chronique à l'époque. Mais en tout cas, très très belle qualité. Ils vont interpréter donc les 4 saisons de Vivaldi. Leur dernier disque Vivaldi, d'autres concertos et diapason d'or. Enfin, c'est, voilà, c'est sublimissime. C'est une soirée qui se veut populaire dans le sens où le but de cette soirée, c'est vraiment d'accueillir tout le monde, de permettre à des personnes qui n'osent pas forcément pousser la porte d'une église de venir écouter. Et puis, il faut le dire quand même, parce qu'on l'a vécu tous les deux en 2019, cette scène de la vallée de l'Alzou. Et on peut même dire cette salle, parce qu'on est en contrebas de la cité de Rocamadour, qui est donc le décor scénique de fond. On a la falaise de part et d'autre du canyon. Au-dessus de nous, on a le ciel étoilé. On est en fait dans une salle à ciel ouvert. Et vraiment, écouter de la musique avec cette ambiance-là et ce décor-là, enfin pour moi en tout cas, ça a été un moment vraiment magique.
Oh bah c'est un décor à couper le souffle, hein, avec la cité éclairée. Donc il y a effectivement une espèce de magie là. Et donc ce sera les 4 saisons de Vivaldi,
le
programme.
Oui.
Le 4 saisons, bon, bah, difficile de programmer une œuvre qui ne soit pas plus connue du grand public. Bon, les 4 saisons, je rappelle qu'en fait, ce sont 4 concertos pour violon. Et Julien Chauvin est un magnifique violoniste. Alors, j'ai pas d'extrait des 4 saisons de Vivaldi joué par le Concert de la Loge à vous proposer, mais nous allons tout de même écouter la formation de Julien Chauvin dans ce petit aperçu du concerto pour violon RV 387 du grand compositeur vénitien. Le concerto pour violon RV 387 d'Antonio Vivaldi, interprété par le Concert de la Loge avec son fondateur Julien Chauvin. Ils sont donc en concert le 24 août à 21h30, où ils vont jouer les 4 saisons du même Vivaldi, en plein air, au pied de la cité de Rocamadour. Le 25 août, vous enchaînez au même endroit, et ça c'est une des nouveautés de cette édition 2021, puisqu'il va donc y avoir 2 concerts consécutifs dans la vallée de l'Azou. Encore un concert de prestige, toujours à 21h30, avec la première venue à Rocamadour du célèbre et très médiatique contre-ténor Philippe Jarouski, accompagné par la non moins célèbre Christina Plouard et son ensemble Arpeggiata, dont nous avons parlé tout à l'heure. Alors là, c'est 2 premières en une.
On peut le dire, oui. L'autre soliste sera Céline Chin, une très belle soprano belge, puisqu'ils vont interpréter le Stabat Mater de Pergolèse. C'est la première fois qu'on reçoit l'arpeggiata. Pour moi, c'est au niveau personnel un désir depuis toujours, parce que mon papa est fan de l'arpeggiata, comme il est fan d'Alexandre Tarot aussi, dont on parlera juste après. Comme quoi, quand on fait une programmation, il y a aussi les souvenirs d'enfance qui viennent. Et je pense que mon papa a acheté quasiment tous les disques de l'arpeggiata. Et quand j'étais enfant, on écoutait ça. Il écoutait ça à fond dans le salon. Et donc, j'ai été bercé par cette musique-là. Le Stabat Mater de Pergolèse, c'est une œuvre qu'on ne présente pas, magnifique, pour orchestre, et puis 2 voix solistes. Et puis, Philippe Jarouski, voilà, c'est le contre-ténor qui est au sommet de sa carrière. Et on est très heureux, surtout qu'au pied de la cité, voilà, ça va permettre aussi d'accueillir beaucoup plus de monde que ce que ne peut le permettre la Basilique Saint-Sauveur.
Bah, je pense que Jarouski, plus l'arpeggiata, plus le Stabat Mater de Pergolèse, a priori, ça devrait drainer les foules, surtout à cet endroit.
On espère, et dans ce cadre-là, voilà, s'il y a bien 2 soirées à ne pas manquer pour ceux qui sont amateurs de belle musique, de très beaux ensembles et d'un lieu magnifique. Bon, il y a tout le festival, mais ça, vraiment,
oui,
ces soirées-là...
La vallée de l'Alzou, je pense que c'est à ne pas rater ces 2 concerts, là, donc du 24 et du 25 août. Nous n'allons pas nous priver du plaisir d'entendre la voix de Philippe Jarouski dans cette émission et dans une interprétation du Stabat Mater de Pergolèse. Alors, il ne s'agit pas d'une version où il est accompagné par l'arpeggiata, mais par l'ensemble Orpheon 55 de Nathalie Stutzmann. Thank you. magnifique Stabat Mater de Pergolèse, chanté par Philippe Jarouski, accompagné ici par l'ensemble Orphéon 55 de Nathalie Stutzmann. Mais c'est par l'arpeggiata de Christina Plouard que le contre-ténor français sera accompagné le 25 août pour son concert dans la vallée de la Zoue, au pied de Rocamadour. Concert qui commencera donc à 21h30. Et puis le 26 août, eh bien, ce sera la soirée de clôture du festival 2021. Elle va avoir lieu à la Basilique Saint-Sauveur. Et vous y avez invité un musicien que nous avons évoqué tout à l'heure lorsque nous avons présenté le concert de Thibaut Garcia et Félicien Brut. Ce musicien, c'est Alexandre Tarot, à n'en pas douter, un de nos meilleurs pianistes actuels, et sauf erreur de ma part, ce sera pour lui aussi une première à Rocamadour.
Oui, ça fait quelques années qu'on a des récitals de piano, hein. On a accueilli Angelich, Duchâble, Anne Kefelec, et puis Alexandre Tarot, ça fait partie de ces pianistes qui me suivent, je l'ai exprimé à l'instant, hein, que j'entends depuis ma plus tendre enfance. Et on est très heureux, un programme Schubert, Liszt, avec les funérailles de Liszt, et puis la deuxième sonate de Chopin. Il faut dire que le piano sonne magnifiquement bien dans l'acoustique de la basilique, d'autant plus quand on est là en scène centrale, avec le piano en plein centre, le public qui entoure. Il y a une vraie proximité, et voilà, je suis vraiment très heureux de clore cette 16e édition avec ce pianiste qui est si cher à mon cœur.
Ouais, puis c'est un personnage aussi, Alexandre Tarot, il s'exprime pas seulement sur la musique, il fait des choses un peu hors de son cadre habituel. Il est souvent venu à Toulouse, hein, on l'a encore entendu en fin septembre dernier au Théâtre du Capitole, avec Sabine Devielle, autre chanteuse que vous avez reçue il y a 2 ans à Rocamadour. Il nous avait présenté un superbe programme de mélodies françaises. Et bien, lorsqu'on veut faire écouter Alexandre Tarot, on a que l'embarras du choix, tellement il a enregistré de CD depuis le début de sa carrière. Il y a quelques années, il avait fait paraître un CD Chopin Journal Intime, dont voici un extrait. Alexandre Tarot joue la fantaisie impromptue opus posthume 66 de Frédéric Chopin. La très belle fantaisie impromptue opus posthume 66 de Frédéric Chopin, interprété par Alexandre Tarot, un extrait de son CD Chopin Journal Intime. Alexandre Tarot va donc donner le concert de clôture de cette 16e édition du Festival de Rocamadour, le 26 août à 21h à la Basilique Saint-Sauveur, avec au programme les funérailles de Franz Liszt et des œuvres de Frédéric Chopin et Franz Schubert. Voilà donc pour la programmation. Avant de conclure cette émission, un mot peut-être sur un autre rendez-vous important du festival, son traditionnel et très couru stage de chant. Quels sont les dates du stage cette année et qui va l'encadrer? L'encadrement, c'est les mêmes que d'habitude, je suppose?
Ils sont les mêmes, pas que d'habitude, mais que 2020. Le stage a lieu du 13 au 20 août. Le concert de fin de stage aura lieu le 20 août à 16h dans la Basilique Saint-Sauveur. Une semaine pour travailler la musique polyphonique et le chant grégorien. Alors, le thème du programme par Christopher Gibert, Anne-Bertin Hugo et Laetitia Corcel, un lien avec la musique anglaise, à la fois baroque et moderne, avec du Rutter et des choses comme ça. Et puis, au niveau du grégorien, il y aura l'apprentissage des séquences grégoriennes. Voilà, le Veni Creator, Veni Sancte Spiritus, Victime et Pascal Ilodes, etc.
Donc 60 stagiaires, vous pouvez recevoir, c'est ça, à peu près?
Oui, on va dire une grosse cinquantaine de
stagiaires. Et de tout niveau, hein. Vous acceptez les débutants?
De tout niveau, parce que le but, c'est que ce stage soit ouvert à tous.
Il y aura aussi quelques concerts l'après-midi, comme d'habitude, à 16h, à la Chapelle de l'Hospitalet.
On a parlé des grandes soirées, mais il y a un concert à la Chapelle de l'Hospitalet. Il y a aussi les programmes Hildegarde à Carénac et à Creys.
Hildegarde, Anne Bertrand-Hugo, magnifique programme.
Il y a Climax qui donnera un concert d'après-midi. Il y a aussi des récitals d'orgue tous les jours.
À midi.
Entre midi et 12h30, qui sont des concerts gratuits.
À la Basilique.
À la Basilique Saint-Sauveur de Rocamadour. Donc voilà, on a parlé des grandes soirées, mais il y a pas mal d'autres.
Il y a beaucoup d'à côté, et ça, il faut les garder dans le programme. Bien, bah, j'espère que cette émission l'aura suffisamment montré avec les musiciens que nous y avons présentés et les extraits que nous avons diffusés. La 16e édition du Festival de Rocamadour s'annonce comme un très grand cru, avec une programmation aussi prestigieuse que variée et des concerts dans des lieux exceptionnels. Nous avons la chance de pouvoir y côtoyer à la fois la grande musique, l'histoire et le patrimoine. C'est un des nombreux atouts du festival, il y en a d'autres. Merci beaucoup Aimeran Rollin d'être passé nous voir à Toulouse et à Mélomanie. Je rappelle que l'édition 2021 du festival se déroule du 15 au 26 août à Rocamadour et à ses alentours, dans cette superbe région du nord du Lot. La billetterie est d'ores et déjà ouverte, donc n'hésitez pas à réserver et à acheter vos places de concert dès maintenant, et éventuellement aussi à réserver vos places pour le stage. Pour ce faire et pour consulter le détail de la programmation que nous vous avons présentée lors de cette émission, il vous suffit de vous connecter au site web du festival www.rocamadourfestival.com. Tous mes remerciements à Christophe Aubry pour la réalisation de ce numéro. Le podcast est disponible et téléchargeable comme d'habitude dès aujourd'hui sur le site de Radio Présence. Je rappelle que Mélomanie est diffusée les vendredis à 19h ainsi que les samedis à 10h. Merci encore de votre fidélité, très bon week-end et très bonne semaine à tous.